France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui journaliste. Il est le correspondant du quotidien israélien Haaretz à Paris. Il publie son premier roman, Unité 8200, enfin on dit 8200. C'est chez Liana Levy. C'est un roman d'espionnage qui a connu un vif succès en Israël et qui devrait être adapté en série télé. C'est d'ailleurs de plus en plus souvent le destin des romans. Dov Alphon, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Et merci d'être au micro d'Inter. Beaucoup de sujets à aborder avec vous. Dans quelques jours, les élections en Israël, évidemment. Je suis également curieux de savoir quel regard le correspondant étranger que vous êtes porte sur la France d'aujourd'hui, certains événements récents ayant sidéré les Français eux-mêmes. Mais commençons donc par ce roman. Un jeune Israélien, start-upper, disparaît à l'aéroport de Roissy, à peine débarqué de l'avion. Que s'est-il passé? Quel écho aura l'événement en France et en Israël? Qui a fait le coup? Les Russes? Les Chinois? Est-ce parce que, et ça je l'ai découvert, vous-même avez été officier du renseignement israélien, vous avez eu envie de vous aventurer dans cette voie?
C'est-à-dire que depuis mon service militaire à l'unité 8200, où effectivement on dit 8200 et non pas unité 8200, j'ai été sidéré par le fait que tous les romans d'espionnage sont des romans sur ce qui s'appelle human intelligence. Donc c'est des humains, on a un agent secret, et quand on vous dit prenez-le en filature, il faut voir les ruelles sombres, les coins de rue, etc. Alors que si quelqu'un vous a pris en filature, les Iraniens, les Israéliens, les Chinois, ils vous observent de 4000 km de chez vous. Et donc, c'est quelque chose que je pense la plupart des lecteurs ne comprennent pas. Ça fait au moins 10 ans que 90% des rapports d'espionnage sont basés sur de l'espionnage électronique, satellite, etc. Et presque toutes les opérations militaires israéliennes des 20 dernières années sont basées sur des rapports de l'unité 8200. Et donc, ça me faisait bizarre de ne pas l'aborder.
Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à l'époque, Dov Alphon, dans cette unité?
Alors, je peux vous le dire, mais je n'aimerais pas être assassiné au sortir de la maison de la radio.
On veut pas non plus. Et on veut bien avoir une idée.
mais j'étais officier de renseignement pendant des années. C'est quelque chose qui ressemble à du journalisme en ce sens qu'il y a énormément d'informations autour de nous et il faut pouvoir l'analyser, le mettre dans un contexte et décider qu'est-ce qu'il faut approfondir là-dessus. Mais bien sûr, des questions éthiques vont tout de suite surgir, même alors. Par exemple, il est probable que vous allez me dire, bon, moi, qu'est-ce que je n'ai aucun, il y a aucun intérêt au service de renseignement israélien ou iranien ou américain de m'espionner, donc je suis tranquille qu'il continue. Mais supposons que vous sortez d'un café et quelqu'un vous dit, excusez-moi monsieur, le bus 87, vous savez où est la station? Et vous allez lui dire, non, je n'ai aucune idée. Cet échange n'a même pas duré 10 secondes. Mais pour qui observe ce personnage, qui est par exemple un savant iranien du nucléaire, quel est ce type-là? Ils échangent quelque chose et donc il est probable qu'on va repérer votre numéro de portable, puisque vous l'avez sur vous, et on va vous espionner pendant une semaine, simplement pour être tranquille.
C'est très étonnant le paradoxe de ce livre. C'est un livre drôle, mais on sent aussi que vous n'avez pas envie de rire. Qu'est-ce qui vous inquiète, Dov Alphon, dans le monde que vous venez de décrire très rapidement? C'est la surveillance généralisée?
D'abord, c'est l'ignorance totale des futurs lecteurs d'Unité 8200 à comprendre que ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent est une version très très sanitisée, très disons pas complète de ce qui se passe autour d'eux. C'est d'abord ça et bien sûr c'était surtout la moyen dont les politiques utilisent leur service d'espionnage, et le premier ministre dans mon livre ressemble étrangement à un premier ministre appelé Benjamin Netanyahou,
voilà,
bien sûr.
Et on va y venir. On entendait le reportage de notre correspondant Étienne Monin dans le journal de 7h. C'est devenu la campagne pour les législatives israéliennes, nous disait-il, le festival de la fake news, le festival de la manipulation électronique. On le sent, on le pressent dans votre livre. C'est devenu ça, la vie politique aussi en Israël.
C'est très bizarre d'écrire un livre dystopique en disant attention, ça peut arriver. Et c'est comme si ce gouvernement avait lu le livre et s'est dit tiens, c'était un bon manuel d'entretien, c'est ce qu'on va faire. Et donc, le moment où tout l'apparatchik autour de Benjamin Netanyahou a dit figurez-vous que des Iraniens ont réussi à espionner le téléphone de notre principal concurrent, l'ancien général Gantz. On est en plein dans de la fiction terrifiante, très, un peu amusante si vous n'êtes pas israélien, je suppose. Mais pour des Israéliens, c'est terrifiant. Et on est en plein dans un essai de laboratoire. Je pense que d'autres pays occidentaux devraient faire attention et devraient prendre note de ce qui se passe, parce que ce qui se passe en Israël et ce qui se passera le 10 et le 11 avril pourrait se passer dans n'importe quel système électoral à l'avenir.
Et qu'est-ce qui se passe alors précisément ? Donc, c'est dans quelques jours les législatives chez vous. C'est quoi ? C'est une manipulation généralisée de l'opinion ? Dans le livre, on voit des conseillers du Premier ministre inventer au sens strict l'actualité pour éviter ce qui pourrait y avoir de gênant dans telle ou telle affaire, notamment de détournement d'argent. C'est ça.
C'est d'abord ça. Ils sont très habiles. Souvent, ce sont des anciens journalistes, hein, disons aussi la vérité. Notre profession n'est pas exempte de reproches, mais ils ont énormément d'informations, big data, comme on dit, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est ça qui est terrifiant. Ils savent très bien quel bouton appuyer pour choquer les électeurs, pour détourner des électeurs de voter pour un autre. Le système électoral israélien, en plus, comme votre correspondant l'a expliqué, ce système de coalition, il est probable qu'au lendemain des élections, on ne saura toujours pas qui va être le Premier ministre, puisque cela va dépendre d'encore des campagnes négatives et des coups fourrés et des marchandages qui vont durer au moins 2 semaines.
Netanyahou est au pouvoir, Dov Alfond, depuis 13 ans en Israël, ce qui est considérable. Et il semble quand même le mieux placé pour emporter une victoire. On verra le jeu des coalitions, oui. Mais en tout cas, il ne se présente pas affaibli ou en grand risque à cette élection. On va pouvoir nuancer après. Seul Ben Gourion a gouverné plus que Netanyahou en Israël. Mais à quoi tient sa longévité qui est extraordinaire ?
D'abord, c'est l'un des meilleurs politiques mondiaux. J'ai connu des journalistes politiques américains qui me disaient si ce type se présentait aux États-Unis, il aurait les 2 mandats. Il serait président pour les 8 ans. Il est très habile.
C'est un grand homme politique.
C'est certainement un grand homme politique, non, puisque les hommes politiques, à mon sens, et au vôtre aussi, je crois, seront jugés sur les actes qu'ils ont faits pour leur pays et pour le monde. Donc, non. Mais dans la longévité, c'est certainement un grand spécialiste de la survie. C'est le meilleur peut-être au monde. Il a été massacré du point de vue politique strict. Il aurait dû être très affaibli. Il ne l'est pas. Il est très probable, à mon sens, qu'il n'ait pas la majorité directe au lendemain des élections. Les Israéliens en ont marre, on va en parler. Mais, comme vous le dites, il peut très bien être quand même Premier ministre. Il est très habile.
En face, l'ancien général Gantz, quel est son profil ? Il semble plus difficile de faire campagne pour lui que pour Netanyahou, qui n'a pas d'état d'âme.
C'est sûr. D'abord, c'est un homme taciturne déjà, comme tous les anciens militaires. Et ensuite, il est choqué par ce monde où il vient donc d'un monde cruel. Bien sûr, mais où les lois, par contre, les règles sont très strictes. Et il entre dans un monde où tout marche. On peut dire sur lui n'importe quoi. Il lui faudra, disons, 1 demi-heure pour démentir. Et durant cette demi-heure, la fausse information va faire le tour d'Israël. Et il n'est pas... Et disons qu'il est tellement choqué que ça va lui demander encore bien des efforts pour jouer le jeu politique. Il est possible aussi qu'il arrive à tirer son épingle du jeu en se présentant comme il est, quelqu'un qui ne sait pas jouer ce jeu-là. Qui ne sait pas mentir face à la caméra. Il va hésiter, il va rougir, il ne va pas répondre. Et il est possible que des Israéliens, soudain, tombent amoureux de cet ancien, hein, c'est presque un Sabra, comme dans les livres d'école. C'est quelqu'un qui parle peu, qui aime Israël, qui est prêt à une certaine paix, etc. Il est possible qu'ils en tombent amoureux. Mais Netanyahou est très fort face à lui.
Ce sera un référendum pour ou contre Netanyahou, cette élection, ou pas seulement ?
Pas seulement. À mon sens, si c'était un référendum pour ou contre Netanyahou, ce serait contre. mais bien des Israéliens vont faire un autre calcul. Par exemple, tous ceux qui sont à la droite de Netanyahou, ce sont des centaines de milliers de personnes, vont peut-être se dire, si je vote pour quelqu'un plus honnête, par exemple, il y a des hommes politiques de droite qui ne sont pas soupçonnés de corruption, mais je risque d'affaiblir mon camp, et à la fin c'est la gauche qui va la prendre, qui va gagner les élections, ou le centre, donc je vais quand même me boucher le nez, me boucher les oreilles et peut-être me mettre un bandeau, mais je vais mettre quand même vais mettre Netanyahou quand même dans l'urne, hein. Ça va exister.
Quel est le centre de gravité de la droite aujourd'hui en Israël? Netanyahou, Dov Alfon, c'est le Likoud qui a été un grand parti conservateur à l'ancienne. Est-ce que le cœur idéologique du Likoud a évolué? Est-ce qu'on se déplace vers la droite autoritaire, l'extrême droite?
Je dirais que après l'échec retentissant et meurtrier d'Oslo, des accords d'Oslo, le pays est passé à droite dans sa majorité, puisque les prophéties de la droite israélienne, comme quoi vous allez leur donner des fusils, vous allez leur donner de l'argent et tout ça va se retourner contre vous et contre nous, ces prophéties se sont révélées strictement dans le terme juridique vrai, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, expliquer aux électeurs, oui, mais Israël a continué sa politique de colonisation, etc., ce n'était pas du tout le jeu d'Ehud Barak, qui était alors Premier ministre, et la gauche en a fait les frais. Donc oui, le pays est à droite, mais en même temps, le Likoud, qui était un parti conservateur très respectable, avec des idéologues, des écrivains, des philosophes, est devenu un parti très populiste. Hein. C'est Trump avant Trump. Netanyahou a inventé Trump. Ce sont deux amis des années 80 à New York. Netanyahou était ambassadeur d'Israël à l'ONU. Trump commençait à peine sa carrière dans l'immobilier. Ils sont devenus vraiment copains et on voit très bien l'influence qu'ils ont l'un sur l'autre.
Donc la droite du Likoud a évolué, vous dites même qu'elle en a été la première forme, vers tout ce qu'on voit aujourd'hui, Donald Trump, Bolsonaro, c'est-à-dire une droite très différente, populiste. C'est ça.
C'est exactement ça, puisque Bolsonaro était en Israël cette semaine et s'est embrassé avec Netanyahou, ce n'est pas par hasard. Ces gens-là ne se rencontrent pas par hasard. Netanyahou, sa campagne électorale est basée sur le président brésilien, Poutine et Trump, puisque c'est les trois qu'il va rencontrer cette semaine. On voit très bien que c'est clair, c'est totalement cynique. Voilà ce que je crois, c'est ça le monde, et si vous voulez être faible d'esprit et voter pour la gauche, n'hésitez pas, mais ça sera la catastrophe.
En tant que correspondant étranger, correspondant donc du quotidien Haaretz en France, comment avez-vous vécu, Dov Alfon, la crise des Gilets jaunes, ce qu'on a pu sentir comme un vacillement de l'État à certains moments?
Oui.
Ça a dû être un effarement,
stupeur pour vous. Alors déjà, dans Unité 8200, mon protagoniste est un Français qui revient en France après des années en Israël, et il est déjà un peu stupéfait de tout. Hein. Mais je pense surtout que pour quelqu'un qui est rapatrié en France, ou un étranger qui vient pour quelques années, la France est un pays extraordinaire. Tout marche. C'est un pays magnifique. Et donc, on est toujours, quand on est étranger, un peu stupéfait de voir des gens qui sont mécontents de vivre en France. Mmh. Alors que de l'endroit où on vient, ça se passe beaucoup plus mal. Vous avez une sécurité sociale qui marche, ce qui n'est pas donné à tout le monde de nos jours. Les invalides ne sont pas vraiment attaqués dans la rue par des manifestants. Et vous avez une paix durable dans vos frontières. Donc
vous
toujours
arrivez
un peu
en France
effaré.
Avec ça, comme image.
Oui.
Et ensuite, donc, vous voyez cette crise émerger. Comment vous la racontez à vos lecteurs israéliens?
Je pense que la crise en elle-même n'est pas différente de la crise du Brexit en Angleterre, et je suis désolé si ça peut choquer quelqu'un.
Allez-y.
Mais c'est ça, ce sont des millions de personnes oubliées par le progrès français ou anglais. Et donc, tout marche bien, les trains sont TGV, la technique et la technologie française est à la pointe, mais dans de vastes provinces de France, on ne ressent aucun bienfait de tout ça. Ce sont donc de grands oubliés. À mon sens, ce n'est pas la faute de ce président-là, mais peut-être qu'il n'a pas eu la sensibilité de stopper ce mouvement tout de suite. Et ça ressemble étrangement au Brexit, ça ressemble étrangement aux électeurs de Netanyahou dans le désert du Negev, le fait qu'Israël soit une start-up nation, et à la pointe de la technologie mondiale, eux ne le ressentent pas du tout. Je pense que c'est ça. Et les politiques devront réagir à ce public. Mais d'ici à dire, ils ont raison, nous allons abandonner notre système de contribution directe, on n'a pas besoin de sécurité sociale, c'est extrêmement dangereux de jouer avec ça.
Et sur l'antisémitisme, Dove Alphon, dont on a pu noter une résurgence en marge d'un certain nombre de cortèges, à certains moments de cortèges de gilets jaunes, vos oui. parents ont fait le choix de quitter la France quand vous aviez 11 ans, vous avez passé 11 ans en France, puis vos parents sont partis en Israël à cause de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, alors ?
Je pense qu'on peut voir de toute façon ces mots codes que tout juif sait, peut tout de suite ressentir une gêne et je dirais même une frayeur. C'était au 19e siècle les cosmopolites. Hein, on ne disait pas les juifs, il fallait dire je suis contre le cosmopolitisme, je suis contre le mondialisme, je suis contre les banques de Francfort. Et chaque Français savait très bien qu'on voulait dire je suis contre les juifs. Et maintenant, et je le dis à mon grand regret, comme quand même ancien rédacteur en chef du Haaretz, journal qui a tant fait contre ce gouvernement, je suis effaré de voir certaines attaques contre l'État d'Israël, critiques tout à fait légitimes, qui sont en fait des mots codes, des mots clés pour dire je suis contre les juifs, je pense qu'il y en a trop en France, je pense qu'ils ont trop d'influence, et donc on va dire oui, il est à la solde de Netanyahou ou quoi. C'est quelque chose qui m'effraie, mais d'un autre côté, vous savez, le meilleur endroit pour un juif, d'après la philosophie bien connue, c'est en route, c'est en chemin. Ce n'est jamais ni en France ni en Israël. C'est toujours être attentif à ses voies et être prêt
à partir.
Et c'est un peu ça mes personnages, mais c'est un peu ça aussi moi.
On va aller au standard de France Inter pour ouvrir le dialogue entre les auditeurs et vous, Dove Alphon. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Alors ma question est-ce que vous ne pensez pas que le plus grand ennemi d'Israël, c'est le gouvernement israélien ?
Merci Patrice pour cette question, Dove Alphon.
Oui, je le pense tout à fait. Je suis en minorité sur ce point, mais je le pense tout à fait. Il est évident que même du point de vue intérieur, la politique antisociale déjà a fait une fracture énorme. Sachez qu'en Israël, il y a le pourcentage d'enfants pauvres le plus élevé de l'OECD, dans l'Ouest. Et bien sûr, face au conflit israélo-arabe, ce gouvernement joue avec le feu en méprisant les Palestiniens d'un côté et en faisant des alliances très dangereuses avec, disons, préférons l'Arabie Saoudite et le Qatar à la Turquie et l'Iran et surtout aux Palestiniens, aux Égyptiens, aux Jordaniens qui sont nos voisins directs. Donc, ce gouvernement, cyniquement, pour la survie politique de Netanyahou, joue avec le feu. Et effectivement, on peut dire que le plus grand ennemi d'Israël est cette politique-là, et donc forcément ce gouvernement.
Sur l'application France Inter, Baptiste vous demande quel rôle doit jouer la France dans le processus de paix. Processus de paix, expression que nous n'avons pas encore prononcée.
Oui. Il n'existe plus. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'on ne l'a pas prononcé. La France a fait plusieurs essais qui ont tous été catastrophiques, d'abord parce qu'elle porte, pour tout Israélien, autour d'elle un aura de soupçon, par son antisémitisme, par ses relations commerciales avec le monde arabe, et par des déclarations pro-palestiniennes qui souvent n'ont pas en seconde phrase le regret de perte de vie israélienne. Et donc ce serait très difficile pour moi, mais la France peut par contre, dans l'organisation européenne, faire énormément de choses. Je crois que ça commence. Il faudrait que la France abandonne sa position nationale pour embrasser une position européenne sur ce sujet.
Dov Alphon, Hugo vous demande pourquoi la gauche israélienne ne parvient-elle pas à percer ?
Bah, d'abord, la gauche israélienne...
A existé et a percé, on peut dire.
Oui, la gauche israélienne était un facteur énormément, et extrêmement important pendant des années et des années. Et donc, je pense que c'est l'effondrement de son principal rêve, les accords d'Oslo, qui ont fait que la gauche ne sait plus quel rêve maintenant avancer. Et dans ce vide, il n'y a pas de grand leader de gauche aussi, il faut dire la vérité. Mmh. Et donc on est dans un vide sidéral où il y a de l'extrême gauche très intéressante, avec des positions très originales, mais qui n'auront jamais une majorité. Et il y a le centre droit qui est en fait le seul, vraiment, la seule inquiétude de Netanyahu aujourd'hui.
Alors, Philippe vous demande, et là, il faut que vous repreniez votre casquette de journaliste romancier. Les séries, dit-il, les séries télé et les romans en disent aujourd'hui plus sur le monde que le journalisme. Il y a quand même un point d'interrogation. Avec la propagation des fake news dans le monde entier par des canaux innombrables, le 21e siècle sera-t-il le siècle de la fiction ? Très bonne question. Les journalistes doivent-ils aujourd'hui produire de la fiction à tout prix ?
D'abord, je dois bien remarquer que j'ai choisi un livre de fiction quand je voulais dire des choses importantes, qui me semblaient importantes. On sait, depuis la case de l'oncle Tom à peu près, que sur des sujets extrêmement graves, un livre de fiction peut véhiculer des idées de façon plus durable et mieux comprise. Donc oui, d'abord, les séries télé sont un format formidable qui s'est réinventé, puisqu'elles étaient vraiment très ennuyeuses, à mon sens, et très banales, et soudain, c'est l'originalité qui prime. Israël est en tête de liste, puisque les séries israéliennes ont à peu près tous les prix des festivals.
Pourquoi ? C'est étonnant.
C'est étonnant.
Tout petit pays avec des enjeux quand même très particuliers, et une audience internationale, mondiale.
Oui, je pense que les séries israéliennes sont d'abord originales, en ce sens que les producteurs n'ont pas peur de faire quelque chose qui n'a pas existé il y a 3 mois. Donc, si vous êtes un producteur français, je vous dis, j'ai cette idée d'un appartement où 3 adultes autistes sont colocataires, et il se passe plein de trucs. Vous allez me dire, monsieur, la porte est là-bas, qui va voir une série sur 3 autistes adultes? Et alors qu'en Israël, on va vous dire, ok, amenez-moi un scénario. Et donc, c'est comme ça qu'on a les prix Seriesmania, Berlin, Cannes, etc. Et c'est d'abord ça. Et ensuite, c'est, je pense, le fait que tous les problèmes existent là-bas, mais aussi tous les espoirs. Et donc, c'est très bon pour la fiction télévisée.
Je le disais tout à l'heure, même si vous n'avez pas toujours envie de rire, votre livre est très très drôle. Adapté en série, puisque ça va être son destin, je me disais que le choix, au fond, serait très simple d'en faire une série à la fois policière et d'espionnage, brutale et dramatique, et absolument pas ce que ça pourrait être aussi, à savoir une comédie. Drôle à enjeu géopolitique. Est-ce que je me trompe ?
J'aimerais que cet aspect Graham Greene d'espionnage drôlatique et un peu satirique existe dans la série. C'est Keshet qui a donc fait, entre autres, Khatoufim, qui a donné Homeland, etc., qui a acheté les droits. Ce sont des gens qui savent quoi faire. Ils sont avec Elephant, qui est une compagnie française. Et j'espère bien que l'on verra au moins certains aspects politiques et évidemment humoristique de mon livre dans la série.
Et dites-nous maintenant plus précisément ce que vous notiez tout à l'heure en commençant, à savoir que les métiers d'espion et de journaliste sont pas si éloignés que ça. C'est quand même un point qu'il va falloir développer là.
Le principal problème des organismes de renseignement comme l'unité 8200 est qu'il y a énormément d'informations. Énormément. Et donc, il va falloir choisir quelles sont les vraies, quelles sont les fausses, quelles sont les importantes, quelles sont les moins importantes. Et surtout, il va falloir choisir quoi approfondir de tout ça. Est-ce que c'est le rôle de la France au Rwanda, ou est-ce que c'est une nouvelle déclaration d'un ancien de télé-réalité qui a fait scandale ? Et ce ne sont pas des choix très simples, même pour un maître espion. Et dans ce sens, je trouve que les deux métiers sont étonnamment liés. Et tout journaliste qui ne sait pas trop quoi faire de sa carrière, je lui conseille d'appeler la DSGI et de vérifier s'ils ont besoin de quelqu'un comme lui.
Voilà, bah écoutez, c'est l'une des pistes possibles pour le métier. Merci beaucoup. beaucoup, Dov Alphon, d'être venu ce matin au micro de France Inter. Unité 8200 est publiée chez Liana Levy. Il sort dans quelques jours. Quelques jours en France, et une partie des législatives israéliennes est donc déjà dans le livre. Merci encore.
Merci beaucoup.